Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes bien à l'écoute de Clap sur Europe 1. On va maintenant parler des films qui sortent en salle cette semaine. Alors au programme, des histoires d'amour, ça on aime beaucoup. Et puis un thriller, des espionnes, une fratrie inoubliable. Est-ce que j'oublie autre chose? Bon, de toute façon, ils vont tout nous dire puisqu'ils sont à mes côtés. Je disais en début d'émission, mais Batman et Robin de la radio, oh, Victor Bonnefoy et Franck Vallière.
C'est de pire en pire.
J'ai failli marcher sur ta cape, Victor. Tu pourrais la ranger mieux, s'il te plaît?
Avec ma belle tenue qui moule mes pectoraux. Oh là là, Franck.
J'essaye de vous surprendre cette semaine et visiblement ça marche. Bon allez, un mot sur le box-office. Alors évidemment, on en parlait en début d'émission, l'indéboulonnable Spider-Man, à mon avis, pour plusieurs semaines encore, qui a attiré donc pour sa troisième semaine d'exploitation 1 million de spectateurs et cumule déjà en seulement 3 semaines plus de 5,6 millions d'entrées. Je pense que c'est quand même assez dingue. Victor, je ne vais pas vous demander si vous êtes content.
Eh ben, alors, je suis content pour les salles de cinéma et pour les exploitants. Ça fait toujours plaisir de voir des salles pleines. Ce serait bien que des fois, ce soit pour des bons films.
Voilà, bon, je rappelle que Victor n'avait pas aimé, mais bon, visiblement, ce n'est pas l'avis de la majorité. À la deuxième place, Tous en scène 2, avec 614 000 entrées, un film d'animation qui a donc séduit à ce jour 1 787 000 spectateurs pendant près de 2 semaines, pendant les vacances de Noël. Donc, on est bien content pour eux. Et puis, sur la troisième marche du podium, une nouveauté, Kingsman, avec 336 000 tickets vendus, enfin un peu plus, quasiment 340 000. Et le quatrième du box-office, L'Étuche 4, qui un mois après sa sortie a fait rire plus de 2 200 000 Français. Alors c'est vrai qu'on est loin du score d'Étuche 3, mais on rappelle le contexte, donc c'est déjà très très bien.
C'est vrai que moi j'avais fait le pari de 5 millions avant les fêtes, mais bon, c'est le contexte. C'est uniquement le contexte, parce qu'il y a tout, le conte de Noël, on fait d'air, c'est une suite, donc ça aurait dû beaucoup plus cartonner. Je suis persuadé que ça va rester encore assez longtemps en salle.
Alors on commence le journal des sorties avec en attendant Bojangles, folle histoire d'amour, Virginie Efira qui partage l'affiche avec Romain Duris et Grégory Gadebois. Dans ce film qui est l'adaptation du best-seller d'Olivier Bourdeau par Régis Ronsard. Alors je vous rappelle l'histoire, c'est celle de Camille et Georges qui s'aiment éperdument, qui veulent échapper à la réalité à tout prix, qui n'ouvrent pas leur courrier, ça c'est pas bien, qui se donnent un prénom différent plusieurs fois par jour, ils vivent au rythme des soirées, ils dansent tout le temps sur leur chanson préférée, Mr. Bojangles. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis, mais malheureusement, tout ça a une limite.
Je n'y pensais même pas. Elle va vous faire perdre la tête.
Je jure d'aimer toutes celles que vous serez, de les accompagner partout où elles iront. Partout. Absolument partout.
Ni papa, elle est malade, maman.
Ni plus ni moins que la plupart des gens. Tu sais, les grands sont tous un peu malades.
Quand la réalité est banale et triste, inventez-moi une belle histoire.
Alors avant d'écouter les réactions à la sortie des cinémas, Victor Bonnefoy, vous en avez pensé quoi?
Alors assez rapidement, moi je suis content de redécouvrir le cinéma de Régis Ronsard qui m'avait énormément déçu à l'époque avec Les Traducteurs. Et là j'y trouve une certaine envolée lyrique, un certain côté romanesque qui me plaît beaucoup. Et je dois bien avouer que oui, le film possède des problèmes de rythme, mais il est emporté par la beauté de ses comédiens, par notamment le talent de Virginie Efira qui ne cesse de briller à l'écran, entouré en plus de Romain Duris, de Grégory Gadebois qui sont des gens qui me passionnent. C'est un vrai bon petit moment que ce Bojangles, hors de la réalité. Et puis finalement, la réalité finit toujours par nous rattraper. Et comment allons-nous survivre face à elle?
Allez, on écoute vos réactions.
J'avais lu le livre, mais je ne suis pas déçue par le film. Ils sont tous les deux très bons, mais Romain Duris encore magnifique.
Duris et Efira, très très bien. Puis il y a ce côté, ce qui m'a séduit aussi, c'est ce côté dense qu'on voit tout au long du film. Et en même temps, ce côté festif est contrebalancé par l'histoire triste de cette femme.
Magnifique. Beaucoup de danse, beaucoup d'émotions. Très beau film.
Oui, parce qu'on rappelle que c'est l'histoire d'une femme bipolaire à une époque où on ne soignait pas ce type de maladie. Voilà, donc c'est à voir en ce moment au cinéma. On continue avec un petit bijou signé Paul Thomas Anderson. C'est Licorice Pizza. Paul Thomas Anderson, à qui l'on doit Punk Drunk Love ou encore Magnolia, pour ne citer que. Alors, un mot sur le film, c'est bien plus qu'un teen movie, c'est une chronique envoûtante, pleine de charme, l'histoire d'amour entre un jeune entrepreneur de 15 ans et une jeune femme plus âgée que lui, photographe indépendante, avec dans le rôle de ce jeune garçon, Cooper Hoffman, le fils du regretté Philip Seymour Hoffman.
Tu trouves ça bizarre que je traîne tout le temps avec Gary et ses potes?
Jamais je t'oublierai, je te jure. Et tu m'oublieras pas non plus.
Caméra A, caméra B, clap, action.
J'arrive, Dante!
Franck Vallière qui trépigne sur son siège.
Paolo Sorrentino et Paul Thomas Anderson sont mes deux réalisateurs préférés. C'est la meilleure chose qui soit arrivée au cinéma depuis 25 ans. Donc forcément, je ne vais pas dire du mal de Licorice Pizza. Et il renoue avec certaines de ses anciennes amours, comme Punch Drunk Love, en moins lyrique, en moins poétique. Et peut-on vraiment dire que c'est une histoire d'amour ? C'est surtout une histoire d'admiration, je pense, entre deux personnes qui sont un peu décalées en termes d'âge. Mais entre une jeune femme, disons de 25 ans, qui est encore restée très jeune dans sa mentalité, qui cherche à s'extirper de son contexte familial et sociétal, et un jeune homme très brillant mais très jeune, comme je viens de le dire, c'est-à-dire qu'il a 15 ans, mais qu'il a déjà une mentalité très particulière et très adulte. Et c'est le vont-ils arriver à s'aimer, parce qu'ils ont tout potentiellement pour le faire. C'est brillant, ça dure 2h20, et on retrouve le père de DiCaprio, par exemple, George DiCaprio, qui est là. Je suis persuadé, Victor, est-ce que tu as remarqué à quel point je suis persuadé que c'est John C. Reilly qui joue le personnage de Frankenstein qu'on voit.
C'est John C. Reilly, c'est un caméo de John C. Reilly, oui,
j'en
évidemment.
J'en étais sûr, il n'est pas crédité.
Mais oui, mais il passe juste une petite tête dans le coin, mais ça fait plaisir de le retrouver dans le cinéma de Paul Thomas Anderson.
Il se passe des choses avec la présence de John Peters, qui est donc le véritable amant de Barbara Streisand à l'époque, qui est joué par Bradley Cooper. Mais c'est un summum de cinéma, voilà. Et c'est tout ce que, par exemple, n'arrive pas à faire un film qui est très surestimé, aussi surestimé que Xavier Bertrand, une veille de primaire à LR, qui s'appelle Don't Look Up et que tout le monde peut voir sur Netflix.
C'est vachement bien, Don't Look Up.
Non, c'est pas terrible.
Oh là là.
C'est-à-dire qu'avec un...
Trop de digression, là. Alors, donc, c'est un autre débat sur un autre film.
Voilà, c'est une maîtrise parfaite. Il n'y a plus les plans qui polluaient potentiellement le cinéma de Paul Thomas Anderson à ses débuts, c'est-à-dire des plans à la Scorsese, très en mouvement, etc. Il fait confiance à ses situations, on est bien avec eux. Mais là, je peux en parler pendant des heures.
Oui, il a Victor, aimé. Alors, on va écouter Victor aussi un petit peu.
Non, mais je suis assez d'accord avec ce que disait Franck quand il citait Punch Drunk Love. Et c'est une évidence quand on parle de ce film Licorice Pizza, parce qu'il revient justement à une véritable histoire d'amour. Et à la différence du début de sa carrière où Paul Thomas Anderson avait besoin de prouver des choses et donc il avait besoin d'en mettre partout. Et moi, c'était quelque chose que j'aimais bien quand même. C'est-à-dire, je pense que Magnolia fait partie de mes films préférés de tous les temps parce qu'il y en a partout. C'est 3 heures où ça te dégueule à la gueule, mais ça te dégueule avec talent. Et bien là, du coup, il peut revenir à quelque chose de plus resserré. Je vais pas utiliser cette expression un peu pompeuse qui est le film de la maturité, parce que je trouve que ça n'a jamais vraiment quelque sens. Mais j'aime bien cette idée de, justement, vu qu'il n'a plus rien à prouver, il peut aller dans un cinéma un peu plus de l'intime. Il peut justement resserrer le dispositif. Il peut te raconter une histoire d'amour qui va être composée de quelques scénettes qui s'enchaînent et qui, à travers celle-là, vont voir se développer les personnages et vont justement voir se développer de l'intime. Je trouve ça très beau et très très fort ce qu'arrive à faire Paul Thomas Anderson, qui est toujours sur le fil et qui, dès sa scène d'intro, par une sorte de travelling qui suit deux personnages qui arrivent à une photo de classe et le dialogue ne s'arrête jamais. Et la puissance monte encore, alors que les enjeux sont pourtant assez ridicules et qu'on ne les connaît pas encore et qu'on commence à les découvrir. Il y a du cinéma en fait là-dedans. Ouais. Dès les premiers instants, c'est un film de cinéma qui est un plaisir à découvrir sur le grand écran et qui donne envie justement d'aller en salle, aller voir Licorice Pizza. C'est un bonheur. Ah là, il faut que je le dise. C'est un film de la maturité. Oh, c'est
alors,
bon.
On écoute l'avis du public pour ce film de la maturité.
J'ai plutôt bien aimé. Après, moi, j'avais des très très grosses attentes et je m'étais fait une idée du film plus sentimental, moins loufoque et moins distancié. Et en soi, c'est quand même une expérience que j'ai aimée.
Moi, je suis plutôt fan. Voilà, il nous ramène dans une belle époque. Des années 70, niveau musical toujours aussi impeccable et puis beaucoup de fraîcheur avec ces deux jeunes interprètes.
J'ai beaucoup aimé, j'ai retrouvé des éléments de ces films précédents que j'aimais déjà et j'étais contente de découvrir un nouveau film du réalisateur.
Eh oui, on n'a pas mentionné aussi cette bande-son absolument dingue, un petit bijou.
Et puis elle est travaillée, parce qu'il y a Life on Mars de Bowie qui est un classique, mais il l'amène d'une telle façon complètement inattendue.
Si on veut parler de la bande-son, est-ce que vous savez pourquoi le film s'appelle Licorice Pizza ?
Oui, c'est le nom d'un disquaire.
Ben oui, et puis même Licorice Pizza qui se traduit littéralement pizza au réglisse, soit le vinyle.
Ah. C'est un disquaire à San Fernando, je crois, c'est ça ?
Qu'est-ce qu'on ferait sans vous, Victor ?
Oh là là.
Je me demande. Allez, on passe à un autre film, Mes frères et moi, présenté à Cannes en 2021, le premier film de Johan Manka qui va vous émouvoir avec une fratrie très attachante. Donc, c'est l'histoire de Nour, un garçon de 14 ans qui vit en banlieue avec ses 3 frères et sa mère malade. Un jour, il rencontre une prof de chant lyrique et se découvre alors un talent insoupçonné pour l'opéra.
Tu veux faire quoi tout l'été ?
Quoi ?
Tu veux commencer à ramener du bif à la maison toi aussi.
Le premier qui me gonfle, j'en colle pour 2 mois de plus. Et toi, bosse, toi !
C'est bien ça.
Ton frère, il part en couille. Il me fait le coup d'aller faire du chant, genre Maria Carré, tu vois.
Poiké.
Tu fais du chant ?
Eh, ferme ta gueule, t'as compris ?
Maman, je te présente la fille qui nous apprend à chanter.
Votre fils, voilà, il a du talent. C'est comme ça, c'est en lui.
Ça venait les reins.
Et il faut pas qu'il passe à côté de cette chance.
Alors Franck ?
Un très joli film, et pourtant je partais à reculons, parce que l'idée du film sociétal, ou comment des petits gamins des banlieues un peu wesh vont s'en sortir grâce à un art noble, ça donne parfois au bout des doigts, avec Lambert Wilson qui était complètement bourgeois et à côté de la plaque. Mais celui-ci, en fait, il y a de réelles velléités qui sont extraordinairement mises en scène et extraordinairement jouées, parce que et ce sont des jeunes comédiens, mais qui sont professionnels. On retrouve dedans Dadi Ben Salah, qui joue un des méchants d'ailleurs dans No Time to Die de James Bond, le dernier James Bond. Et ce sont des comédiens pros qui utilisent des situations, certes, de connivence et de proximité familiale pour évoquer le déchirement au sein d'une fratrie qui doit... Je n'évoquerai pas tous les problèmes qu'ils ont à traverser, mais chacun est tellement typé qu'en fait, la fiction se retrouve autour du réel. Et ça donne un petit film bouleversant, qui est plein d'allant et qui change, qui œuvre véritablement vers la médiation, vers la tolérance et toutes les formes de tolérance possibles et imaginables. C'est un film très malin et qui change vraiment du discours qu'on peut tenir actuellement ou depuis quelques années sur la représentation de certaines banlieues. Voilà.
On va écouter les réactions à la sortie des cinémas.
C'était très beau, la pellicule c'est un super choix. Je trouve qu'ils jouaient tous très bien et c'était une très belle histoire.
C'est un film superbement joué en fait par ces quatre garçons. Alors Judith Chemla, alors c'est elle qui chante en plus, mais exceptionnelle, et elle a une voix exceptionnelle. Très très beau film, très sensible.
Moi j'adore l'opéra, je trouve qu'effectivement ça peut apporter beaucoup aux jeunes de n'importe quel quartier d'ailleurs.
Judith Chemla, toujours exceptionnelle, j'ai envie de dire. Et puis dans un autre registre, Marché Noir qui prouve une nouvelle fois que le cinéma iranien est plus fort que jamais. C'est l'histoire d'un gardien qui retrouve des cadavres dans une chambre froide et qui appelle son fils pour s'en débarrasser par peur d'être accusé à tort. C'est un film réalisé par Abbas Amini, un thriller haletant qui emmène les personnages très loin dans leurs doutes et dans leurs actions. Victor, tu en as pensé quoi ?
Ça fait toujours plaisir de retrouver en salle encore un drame thriller iranien après la loi de Téhéran qui avait marqué l'année 2021. Après Un héros de Asghar Farhadi qu'on avait découvert à Cannes, ça fait du bien de voir encore des thrillers iraniens diffusés dans nos salles. Alors moi ce que j'aime beaucoup avec le film, c'est que tout repose sur un jeu de faux-semblants, sur qui ment, qui dit la vérité, quelles sont les motivations de chacun. Il y a plein d'idées de mise en scène très intéressantes sur qui dirige le monde et qui se fait diriger, comme pourquoi on ne filme pas les visages des banquiers, pourquoi on filme justement les petits qui galèrent et qui vont avoir du mal à s'en sortir. Il y a aussi tout un discours qu'a justement le réalisateur sur la place de ces Iraniens qui, à un moment, ont essayé de fuir le pays, sont arrivés en France et se sont fait re-expulser en France et donc tombent nécessairement dans un trafic parce qu'ils n'ont que ça pour survivre. Alors, je trouve justement que les moments sur le trafic sont un peu moins bien rythmés dans le film. Par contre, tout ce qui concerne l'enquête, tout ce qui concerne justement les troubles de son personnage principal qui va devoir, à un moment, choisir sa place et choisir son camp au milieu d'un imbroglio complet où des cadavres sont cachés dans un jardin, c'est brillant de rythme dans ces instants-là. Il y a notamment une scène de bourse au dollar où justement on spécule sur la valeur du dollar et on vend des dollars à tel prix, on échange des monnaies. C'est assez fou. Le film est très peu distribué, il est dans 13 salles, ce qui est minuscule.
Donc il faut se dépêcher.
Voilà, ce qui me rend énormément triste. On sait que le cinéma actuellement c'est compliqué et que très souvent le destin des films est scellé dès le dimanche. Si Marché Noir est autour de chez vous, soutenez le cinéma iranien et allez-y, vous allez passer un vrai moment de cinéma.
Et puis le nouveau film de Robert Guédiguian, Twist à Bamako, qui vous emmène dans l'atmosphère entraînante et révoltée du Mali en 1962, avec l'histoire de Samba qui sillonne le pays pour promouvoir le socialisme, qui va faire la rencontre de Lara, prisonnière de son mariage. S'ensuit un amour impossible, tragique, mais rythmé et teinté d'espoir.
Je n'en peux déjà plus de ta révolution socialiste.
Notre révolution à tous, papa.
On danse ici, on fait pas de politique. Alors va te changer, s'il te plaît.
C'est pas parce qu'on est tous égaux qu'on est tous pareils, tu sais.
Vous avez votre papier de mariage ?
Un jour, tous les peuples africains seront libres comme notre Mali. Un jour, le ciel s'éclaircira.
Et Franck Vallière, je crois que vous avez beaucoup aimé.
Oui, c'est très bien parce que c'est un Guédiguian qui change. Enfin, qui change. Attention, Guédiguian fait des trucs très variés. Hein. Mais là, on n'est plus dans le quartier, dans les quartiers marseillais avec Ascaride, Mélan, etc. Là, c'est carrément s'intéresser à l'arrivée potentielle du socialisme au Mali au travers d'une fiction par le biais d'une histoire d'amour. Mais tout ça est extrêmement tenu, sans trop d'artifice comme à l'habitude de Guédiguian, qui n'est pas amateur de grands effets pour amener au sentiment. Et le résultat est vraiment très prenant. Puis il faut saluer quand même le fait qu'un homme blanc, donc ancien colon, s'intéresse, même d'origine arménienne, en français, s'intéresse à une période du Mali où les jeunes blacks de l'époque dansaient sur de la musique essentiellement blanche, mais elle-même pompée au noir américain. Enfin, c'est un très beau film, très intéressant, beau contexte amoureux et sociopolitique.
Et Franck, je vais vous laisser la parole puisque vous vouliez également nous parler d'une ressortie en salle. C'est Le Messager de Joseph Losey, Palme d'Or à Cannes en 1971. petit chef-d'œuvre du cinéma.
Oui, c'est surtout l'occasion de voir du Joseph Losey en salle. C'est pas tous les jours que ça arrive. Le film est de 71. Losey est un très beau technicien qui amène à une émotion splendide. Palme d'or à 71, donc c'est pas de la daube, vous en conviendrez. Et c'est lui qui a également fait Monsieur Klein avec un certain, comment s'appelle-t-il déjà, Jean-Pierre Delon, Alain Delon.
Alain Delon, s'il vous plaît.
Voilà, donc,
et puis la bande originale du Messager qui est culte.
Ah oui, bien sûr. Bah, magnifique. Michel Legrand.
Ah oui.
Quel bonheur d'entendre ça.
Ouais. C'est un film sur l'amour et la manipulation qui est vraiment exceptionnel. Et c'est vraiment pour l'occasion, pour une fois qu'on peut voir un film de Joseph Losey en salle, il faut absolument y aller. Et noter par ailleurs que la Cinémathèque lui rend hommage lors d'un cycle qui a lieu jusqu'à la mi-février à peu près, avec plein de films en programmation. Il faut se renseigner sur le site de la Cinémathèque par exemple.
Clap. Laurie Choleva sur Europe 1.
C'est déjà la fin de ce clap. Merci à tous les deux. Franck, Victor, c'est bon, vous revenez la semaine prochaine.
Bon week-end. Bon, on va essayer, oui, on va essayer.
C'est ma petite angoisse hein, chaque semaine, c'est que vous me lâchiez.
Eh non, reviens.
Bah, vous êtes gentil.
C'est chauffé en plus ici. Donc.
Bah, c'est ça, il fait bon, c'est convivial, on passe un bon moment. Pourquoi s'en priver ? La semaine prochaine, Wistreham au cinéma, nouveau film d'Emmanuel Carrère, et c'est Juliette Binoche qui nous en a parlé aujourd'hui dans Clap. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas d'aller au cinéma, il y a du choix. Vous avez vu, on vous a présenté énormément de films, donc ne manquez pas ce rendez-vous dans les salles obscures. Tout de suite, c'est William Lémergie qui s'occupe de vous. Restez bien à l'écoute d'Europe 1 et bon week-end.